partie basse, il est un peu plus large que dans la partie haute.
Voilà, voilà.
Super. Voilà. Hein? Et puis, la plaque électrique, bon, qui fonctionne pas, bien sûr, elle comporte 4 boutons plats qui sont parlants. Voilà. Quand on éteint, ça dit... Là, j'ai éteint la pile derrière, alors je vais pas vous faire... Hein, mais ça dit bye-bye, et puis les boutons, on les sent, il y a 4 boutons plats.
C'est parfait, ça.
Vous voyez et pourtant, c'est esthétique, ça. Alors, il est faux, l'argument esthétique. C'est faux. On dit n'importe quoi. Parce que c'est à la mode, ou je sais pas quoi, ou parce que l'opinion... Qui c'est qui fait l'opinion ? Hein, dans le monde esthétique.
Il y a Olivier qui nous écrit « L'application pour malvoyants et non-voyants sur iPhone se nomme VoiceOver. »
Oui.
Et sur Android aussi, elle se nomme TalkBack.
Ah ben merci, TalkBack. Alors VoiceOver, moi je ne vous ai pas le nommé, mais c'est ça que j'utilise moi, VoiceOver.
Et ça a l'air bien ça.
Allez sur Internet, vous verrez VoiceOver. Il y a une liste de gestes qui opère des... Alors il faut le désactiver pour donner votre smartphone à un voyant et l'activer pour vous. Et c'est très bien.
Bon,
c'est très bien.
Très
oui,
bien.
Ça se nomme VoiceOver. Je voulais le noter, mais là, il y a eu les infos, tout ça. Je ne savais plus comment reprendre mon truc. Excusez-moi.
Très bien, mais je vous en prie.
Mais,
bon, mais écoutez,
VoiceOver, c'est très bien.
Super. Bah, écoutez, c'est courage à vous, en tout cas, ma chère Janine. On vous embrasse
merci.
Bien fort.
Et puis, j'espère avoir été clair. Et
vous avez été très clair, ne vous inquiétez pas.
Hein,
très clair.
Merci beaucoup.
Je vous
merci
embrasse bien
Olivier.
Fort. Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Sur Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Olivier.
Vous m'appelez d'où ?
Je vous appelle de Normandie,
de
Mont-Saint-Michel exactement.
Et quel âge avez-vous Sandrine ?
J'ai 49 ans.
Nous allons parler de vous dans les minutes qui viennent et on va parler d'une relation toxique que vous vivez actuellement. Donc vous avez beaucoup de mal à vous défaire. C'est du lourd, hein, votre relation là. Hein.
Bah écoutez, ça faisait un an et demi. Ça fait parce que là, je viens de rompre avec cette personne dans des situations assez douloureuses. Ça faisait un an et demi que j'étais avec cette personne et j'étais obligée de le faire parce que mon entourage me révélait que quelque chose ne tournait pas rond. Et il a fallu prendre les choses au sérieux et faire le nécessaire pour arrêter tout ça, en fait.
Alors, on va remonter le temps. Hein. Vous avez rencontré cet homme en octobre 2023.
C'est ça, oui.
Ça commence comment, cette relation ? Au début, ça va ? Tout va bien ?
Eh bien, c'est une relation qui... ça s'est fait sur un site de rencontre.
Bon,
ça, à la limite... Voilà.
Bah aujourd'hui, c'est courant, ça.
C'est tout à fait courant, voilà. Tout à fait, voilà, une rencontre dans un endroit. Et cet homme, déjà, sur son site de rencontre, c'est quelqu'un déjà de très... il est très séducteur, en fait. Très, très bien habillé, avec un discours très, très alléchant, en fait. Parle de road trip en camping-car, il parle de sentiments, il parle d'amour, il parle de beaucoup de choses. Et notre rencontre, ça s'est fait comme beaucoup d'autres, en fait.
Oui.
Une rencontre, et puis un rendez-vous, un prochain, et un prochain, et un prochain. Donc, j'ai commencé à flirter avec lui un peu plus tard. Mais les premières difficultés sont apparues quelques mois après. J'ai remarqué que c'était quelqu'un qui était assez séducteur.
Oui.
Et il y a pourquoi toxique ? Parce que il y a eu des choses qui se sont révélées et qui m'ont profondément blessée.
D'accord. Alors, quelles sont les premières choses qui vous ont blessée ?
Eh ben, par exemple, quand on prenait souvent notre douche, et il est souvent porté sur des, il avait beaucoup de pulsions, à savoir. Ce qu'il aimait beaucoup, c'était m'enduire de savon, en fait.
Oui.
Et ensuite, il fallait le caresser jusqu'à... voilà.
D'accord.
Ouais, il y a le genre, quoi.
Et ça, c'était à chaque douche, pratiquement ?
Voilà, voilà. Et si vous voulez, pourquoi j'ai rompu aujourd'hui, si c'était une multitude de choses, dont ça justement qui commençait à m'écœurer.
Mmh. On va rentrer dans le détail de toutes les choses qui vous ont choqué, parce que vous en avez fait part à Florian. Ouais. Je crois qu'il y a un exemple d'un repas la veille de Noël.
Oui.
Où il vous a imposé une manière de vous habiller.
Alors oui, bah ça aussi, ça, c'était la veille de Noël. Il m'a imposé donc de porter des choses que je voulais pas forcément porter. J'aurais préféré être beaucoup plus sobre et j'étais très très mal à l'aise. Et ça a eu un déclic dans ma famille qui fait que après je me suis sentie un peu complètement rejetée en fait.
D'accord. Et donc il vous a imposé un soir de Noël une tenue qui a même choqué votre famille, je crois.
Voilà, c'est ça, tout à fait, ouais. Et ça, ce sont des choses parmi tant d'autres.
D'accord. J'ai... Et il vous imposait souvent de vous habiller comme ça ?
Alors oui, parce que il disait souvent que pour pouvoir exhiber le désir d'un homme, lui, ce qu'il aimait bien, il aimait énormément que je m'habille en l'église, que je fais.
Je vous entends pas très bien. Parlez bien dans votre téléphone, s'il vous plaît.
Alors, oui, il aimait beaucoup me voir dans des tenues assez près du corps.
Oui.
C'est comme ça que je j'amenais le désir. Et quand j'étais de façon ordinaire, je n'étais plus rien, en fait.
Mmh.
Très Donc, curieux. C'est souvent arrivé. Oui, c'est curieux, oui, tout à fait.
Mmh. Mais est-ce qu'il était... d'emblée, il a senti que vous étiez... Enfin, que vous disiez oui facilement, que vous vous pliez à ses ordres.
Eh ben, je crois oui. Ouais, je pense ouais. Il a senti que j'étais quand même assez fragile, quelqu'un d'assez doux, assez empathique, et je pense qu'il a abusé en fait. Je pense.
D'accord.
Et vous voyez, ce qui me fait mal aussi, c'est que dans sa personnalité, quand on avait des conflits. Il savait que j'étais quand même un petit peu jalouse quand même,
oui.
Et à chaque fois, il inventait des choses. Il me faisait croire que si je ne revenais pas vers lui, eh bien, il avait une liste de filles qu'il attendait et il allait certainement voir une autre fille dans les heures, dans la soirée qui allait suivre notre conflit.
Ouais, enfin, ça, c'est ce qu'il vous racontait en fait pour vous rendre jalouse.
Eh ben oui, mais il me le racontait tellement que j'y croyais. Et systématiquement, je culpabilisais et je revenais vers lui.
D'accord, oui. Donc, il avait bien compris que comment vous manipuler, en fait.
Je pense, oui. Et ça, mon entourage me le disait, parce qu'à force de me plaindre de recevoir ce genre de menaces, j'en étais arrivée à commencer à parler à mon entourage, et à force, je savais plus quoi faire, en fait. Il fallait que je trouve une manière forte de le quitter. Ça fait mal, parce que, on se dit, on a quand même vécu des jolies choses. Mais vis-à-vis de mon entourage, je me dis, si je recommence encore une relation avec lui, je vais perdre l'estime de mes amis, de tout le monde, en fait.
Oui. Donc, vos amis vous disaient quoi, en fait ?
Eh bien, ils disaient que, par rapport à ce que je leur disais, qu'ils manipulaient, une sorte de manipulation.
Oui, mais ça, il le sentait, il le voyait, vos amis, en fait, lui ? Avec vous ? Est-ce qu'il passait des moments avec lui de temps en temps ?
Rarement, mais le peu qu'on m'a vu avec lui, je changeais. Je n'étais pas moi-même. Je n'étais pas Sandrine qui était. Je n'étais pas moi-même.
Oui, c'est ça. C'est, en fait, vous n'étiez pas vous-même. D'accord.
C'est ça.
Est-ce qu'à la base, vous êtes jalouse, normalement ?
Oui, et puis dans mes tenues vestimentaires, je ne m'afflige pas, en fait. Je portais pas des choses aussi sexy, en fait. Je peux le porter quand je suis en intimité avec mon compagnon, oui. Mais vis-à-vis de ma famille, je préfère être beaucoup plus sobre. Mais par contre, en dehors, non, avec lui, je peux très bien, oui, effectivement, comme toute femme qui veut séduire son compagnon, quoi.
Oui. En fait, oui, bon, vous, c'est normal, vous, que vous vouliez lui faire plaisir, et ça, c'est tout à fait normal. Mais finalement, il n'était jamais content, cet homme.
Ben, donc il avait beaucoup, beaucoup de manières. Pour moi, c'est un séducteur, de toute façon. Jamais content, disons que... Il m'a imposé beaucoup de choses, en fait. Beaucoup, beaucoup. Les douches, il m'a imposé aussi de m'emmener dans des clubs que j'ai où bah j'avais jamais mis les pieds.
Ouais, ok.
On l'a fait. Vous la première fois, ça c'est. Eh ben oui, mais la première fois quand on y a été tous les deux, bon, on n'était que tous les deux. J'avais été hors de question de faire des échanges. Et puis, bah, il a voulu refaire une deuxième fois, une troisième fois. Bah, j'en étais curée, je ne voulais plus y aller. C'est pas mon truc.
Oui, oui, je comprends.
Après, je respecte ce genre d'endroit. Hein. Ils ont tous été très si respectueux, d'accord, mais je ne voulais pas aller plus loin, parce que ça allait finir comment? Pour ma part, en tout cas.
Oui.
Oui.
Et en fait, vous êtes resté combien de temps avec lui?
Eh bien, un an et demi, mais on ne vivait pas sous même toit.
Ah oui, d'accord. Donc oui, ça a étiré la relation, en fait.
Voilà, et en fait, moi j'ai eu peur à un moment parce que, vous voyez, je travaille pour deux médecins généralistes, oui. Je suis assistante médicale, je tiens à mon travail, j'adore mon métier, et à plusieurs reprises, on a failli me rompre mon CDI, mmh. parce que j'avais un comportement, je n'y étais pas auprès des patients. Vous voyez, ça prenait quand même le dessus.
Oui, oui, bah c'est normal, vous étiez amoureuse de cet homme.
Oui, tout à fait, oui. Et il est tellement convaincu qu'il n'est pas qu'il se dit l'homme parfait, mais il est convaincu qu'il peut rendre très très heureuse une femme. Ce qui me met mis dans la tête, c'est que je ne vais pas être capable de retrouver quelqu'un qui a autant d'amour, qui est capable de m'emmener. Vous savez, en un an et demi, j'ai fait qu'un seul restaurant avec lui.
Ah oui, d'accord.
Oui. On est parti. Il m'a quand même emmené en Espagne ces derniers trois semaines. Déjà, je voulais rentrer plus tôt. On est rentré le samedi pour que moi j'en prenne le travail dimanche, enfin lundi plutôt.
Oui.
Et puis, il a voulu m'emmener au Cap d'Agde. Je n'ai pas forcément apprécié. Bah ouais,
le Cap d'Agde pour les clubs échangistes et tout ça.
Voilà, ce que je ne savais pas. Donc
vous ne saviez pas ? D'accord.
Non, 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 je savais que c'était une plage, qu'il y avait un village de nudistes, mais je ne pensais pas que c'était... Après, on aime ou on n'aime pas, bien sûr, hein, mais mm-hmm. Je ne pensais pas que c'était aussi ouvert.
Ah oui, si, paraît-il, je n'y suis jamais allé, mais c'est vraiment... c'est vraiment la destination pour... même la destination européenne pour tous les gens qui sont sur l'échangisme et voir... tout ce qui se pratique.
Et puis, voilà, les gens le font en plein jour. C'est un endroit, effectivement, oui, c'est...
Vous y êtes allé une fois, donc, du coup ?
Eh bien, oui, parce qu'avant, on est passé dans cette destination-là avant de descendre en Espagne. J'ai pas eu le choix que de... On est resté deux jours, enfin, trois jours dans le village, et j'ai pas eu le choix que de subir tout ça, quoi.
Mmh. Oui, carrément. Donc... vous étiez mal à l'aise, vous, dans ces rapports-là ?
Très, très, très. Ouais,
parce que quoi ? Il vous demandait d'aller avec d'autres hommes et lui d'aller avec d'autres femmes ?
Non, non, non. Il y a une plage dédiée à tout ça, en fait, aux rencontres, à l'échangisme. Et c'était de regarder ce spectacle à ciel ouvert.
D'accord.
Donc, encore une fois, je ne dénigre pas tout ça. Enfin, mais moi, ça me choquait. J'ai pas forcément passé un bon moment, quoi. Imaginez un peu. Enfin, je sais pas comment vous expliquer.
Non, mais enfin, c'est même pas la peine de rentrer dans les détails. Je suppose que vous étiez devant des gens qui avaient des ébats sexuels comme ça sur la plage et que tout le monde regardait.
C'est ça. Mais j'avais pas forcément. Ça m'intéressait pas plus que ça, quoi.
Au bout d'un moment, en fait, cet homme voulait vous modeler à son image, quoi, en fait. Il voulait...
Oui, parce que, bon, combien de fois j'ai voulu le lier à mes amis en étant un couple, le lier à des amis qui sont tout à fait, des amis à moi, et à chaque fois, il refusait, en fait.
D'accord.
J'étais quand même un petit peu isolée, quand même, de tout ça.
Oui, et en fait, vos amis ne l'intéressaient absolument pas.
Pas du tout. Il m'a jamais accompagné, par exemple, sur une course de running. Jamais, ça ne l'intéressait
jamais.
Pas.
Ouais. Mmh. Ouais, en fait, jamais. C'est quelqu'un qui ne pensait qu'à lui-même.
Je pense, oui.
Oui. Alors, comment vous avez vécu pendant un mois cette relation? Vous avez subi, en fait?
Eh bien, oui, je pense que je l'ai subi, ouais. C'est compliqué, enfin, je l'ai trouvé assez compliqué.
Et à votre avis, il était fidèle ou vous vous êtes aperçu qu'il continuait à être sur des sites de rencontres? Est-ce qu'il batifolait un petit peu comme ça à l'abri des regards?
Non, je pense qu'il était fidèle, mais il ne pouvait pas s'empêcher de dire à chaque fois qu'on avait un conflit qu'il avait une liste de filles qui étaient prêtes à venir avec lui, en fait.
Bah oui, bien sûr.
Mmh. Et ça me dérangeait beaucoup.
Bah oui. Donc, vous êtes un peu tombée dans le panneau quand même, Sandrine.
Oui, je pense. Oui. Mmh.
Il était plus jeune que vous, ce garçon?
Oui, bon, oui, 9 ans de moins que moi.
Oui, bon, donc pas énorme, pas une grande différence d'âge. Mais est-ce qu'il jouait là-dessus, par exemple, aussi? Je sais pas, moi, est-ce qu'il vous disait attention, à l'âge que tu as, ça sera pas facile de retrouver quelqu'un.
Ah ben oui, complètement, il m'a mis ça dans la tête. Bah et ça, j'ai mis longtemps. Vous savez, Olivier, si je vous ai au téléphone, c'est un peu, c'est pas par désespoir, mais je voulais vous confirmer que j'ai pris la bonne décision, que tous les hommes ne sont pas comme ça, que je referai ma vie, peut-être pas tout de suite, mais...
Mais vous allez la refaire, et je vous le confirme. Tous les hommes ne sont pas comme ça, il y a des hommes très bien, vous avez 50 ans, donc c'est très jeune encore, en tout cas, on refait sa vie sans problème, bien évidemment, il faut que vous choisissiez le bon, mais surtout pas celui-là, je pense que vous avez pris une extrêmement bonne décision, Sandrine.
Bah, écoutez, je suis heureuse de l'entendre. Bah,
vous savez, je pense que vous vous seriez totalement détruit dans cette relation. Parce qu'il essayait de vous emmener sur un terrain que vous n'appréciez pas. Non pas que je critique ici ce type de pratique, hein. Chacun fait ce qui lui plaît, je le dis souvent dans cette libre antenne. Mais quand on n'a pas envie de ce genre de pratique, c'est extrêmement dérangeant. Extrêmement dérangeant. Je pense que vous avez eu plusieurs fois une sorte de malaise par rapport au fait qu'il vous entraînait dans ces clubs échangistes ou au Cap d'Agde. Vous avez dû très mal le vivre, ça.
Mais oui, c'est ça. Moi, j'aurais préféré plutôt des sorties, plutôt, je sais pas, des petites randonnées, des choses comme ça, quoi. Enfin, vous savez, l'année dernière, rien qu'au mois de mai, on était partis en Bretagne.
Oui.
Et durant l'hiver, il m'avait mis en garde. Il m'avait dit, tu sais, on tournera un jour au club. J'ai dit, oui, chant de Beaumerle, je ne m'entendrai pas dans un club.
Oui.
Et bien, il s'est arrangé, quand on est parti en Bretagne, de trouver un club sur la route de la Bretagne, je ne sais plus où est-ce qu'il est, ce club. Et bien, on y est allé un dimanche, alors qu'il faisait un temps magnifique.
Oui.
Et voilà, je me suis ennuyée comme il n'y a pas, quoi. Vous voyez, c'est ce genre de choses, je ne pouvais pas lutter, en fait.
Il a un problème, hein, cet homme. Vous en avez conscience, il est totalement obsédé.
C'est quelqu'un qui, par exemple, me disait qu'entre deux relations, il devait trouver une femme, tout le temps. Il m'expliquait qu'il avait au moins eu 30 relations entre deux, enfin 30 relations comme ça, entre deux relations sérieuses.
Oui, c'est possible, mais le fait de vous le dire comme ça, c'est, je trouve que c'est inélégant au possible, vous voyez. Je pense qu'au bout d'un an, même de quelques mois, il vous connaissait. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, cet homme-là?
Ben en fait, on était complètement à l'opposé l'un et l'autre.
Oui.
Lui, il travaille pour des prestations de mariage, en fait.
Oui.
Donc, si vous voulez, il travaille pendant la période estivale. Mm-hmm. Par exemple, on va dire de juin à septembre.
Oui.
Il a environ 6 à 8 prestations en tant qu'animateur pour le mariage. Et le reste de l'année, ben, il ne fait rien. Enfin, il s'occupe de son auto-entreprise.
D'accord.
Et il retape sa maison. Voilà. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a du bagou, quelqu'un qui est très, très, très communicant, en fait.
Mmh. Mais si son mariage dans l'année, difficile. Ça ne devait pas lui payer beaucoup de choses, quand même, si
Eh bien non, pas du tout.
Ben
non,
ouais.
Voilà.
Donc c'est quelqu'un qui, sans doute, vivait des allocations chômage aussi, c'est ça
Non, même pas, non.
Même pas. D'accord.
Même pas.
Ah oui, donc, il était auto-entrepreneur, il n'y a pas le droit, me dit Florian. Non, mais je pense que cet homme-là, il avait un problème un problème évident, c'est qu'il avait une obsession pour le sexe et pour le sexe à plusieurs, et voilà, et qu'il voulait vous emmener là-dedans, et que malheureusement, ça n'était absolument pas votre truc. Donc, je sens que vous avez besoin d'une relation calme, sereine, et puis avec en partageant des passions communes, en fait, et pas surtout pas aller dans des clubs échangistes et tout ça. Mais vous savez, les gens qui ont cette obsession, ils ont un réel problème. Hein. Ils ont un problème. Ben oui, ils ont un problème qui s'explique. C'est une sorte de déviance, quoi, en fait, de tout le temps être obsédé par ça, parce que, enfin, vous emmenez en Bretagne un dimanche où il fait beau, plutôt qu'aller se balader sur la plage, vouloir aller dans un club échangiste, mon Dieu, il n'avait pas beaucoup d'imagination, en plus, en fait.
Ben non, surtout qu'on avait emprunté un camping-car, enfin, je veux dire, c'était vraiment l'occasion de se balader, de découvrir des chemins de randonnée, c'est pas ce qui manque en Bretagne, et d'aller s'enfermer dans un club comme ça, c'est pitoyable, quoi, en fait. Donc,
Bon, vous avez pris cette décision il y a combien de temps, là, maintenant ?
Eh ben, en fait, je l'ai prise ce matin.
Ce matin ? Ah oui, c'est tout neuf.
Voilà, en fait, oui, parce que j'ai eu la chance que je devais passer sur la libre antenne hier soir.
Oui.
Il était très tard, hein, et Florian m'a gentiment rappelé ce matin, en me disant, bah voilà, je vais vous rappeler, vous devriez passer ce soir. Je dis, bon, d'accord. Et je devais voir cet homme-là, je devais le revoir ce soir. Je devais retourner le voir, cet homme.
D'accord.
Et donc, il a fallu prendre une décision assez brutale, et j'ai décidé de rompre. Et j'attendais de passer sur la libre antenne pour pouvoir confirmer ce que j'ai vécu.
Mmh. Et comment ça s'est passé, la rupture ?
En fait, j'ai pas eu le courage de, parce que je me suis dit, comme il a l'art de retourner les choses, en fait, oui. Je me suis dit, bah tant pis, je par texto, je lui ai envoyé que je ne voulais absolument plus du tout de contact.
Oui.
Bien évidemment, il n'a pas arrêté de vouloir me dire les choses. J'ai refusé. Mm-hmm. Ça m'a pris beaucoup de tripes, hein, bien sûr, c'est douloureux. Oui, oui. Mais mm-hmm. C'est lâche de ma part, je sais, mais
non. Mais
je savais pertinemment que en ayant contact avec lui, j'allais forcément retourner la situation. Encore
ne,
une fois.
Ne pensez pas que c'est lâche de votre part. Regardez ce qui s'est passé. Vous avez rompu par texto, mais parce que vous saviez très bien qu'il allait essayer de vous retourner. Vous saviez très bien ce qui allait se passer et vous ne vouliez pas vous infliger ça. Vous saviez très bien comment il allait agir, lui. Donc, vous avez fait comme vous vouliez pour une fois, Sandrine. Pour une fois.
Oui.
Hein ? Et surtout, il faut que vous vous y teniez, parce que je vais vous raconter ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Il va essayer à nouveau de prendre contact avec vous. Il va essayer de vous rattraper par tous les moyens. Il va être capable de vous raconter qu'il va changer, qu'il va faire des efforts, que vous allez voir ce que je vous dis. Il va vous baratiner. Voilà ce qu'il va faire. Alors, ne vous laissez pas avoir, hein, surtout.
Oui.
Pensez bien à tout ce que cette relation vous a apporté comme malaise, comme jalousie aussi, parce qu'il vous rendait jalouse, donc vous savez, c'est tellement facile comme ça de dire à sa compagne, mais moi, tu sais, je peux avoir qui je veux, et puis toi, t'as 50 ans, et puis t'auras du mal à retrouver quelqu'un. Il n'a cessé, cet homme, de vous mettre en situation d'insécurité. Vous voyez ? Et un homme ou une femme, hein, c'est la même chose, qui est en situation d'insécurité, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va obséder là-dessus, vous voyez ? Et adopter des comportements, par exemple, être jalouse. Et il n'y a rien de pire que la jalousie, parce qu'on ne pense qu'à ça.
Ouais,
et ça monopolise l'esprit. Ça monopolise tout dans la tête. Et finalement, le danger de ce type de relation, toxique, hein, c'est que cette toxicité devient presque une addiction. Et parfois, on percute absolument pas sur le fait que c'est ce mal qui nous retient quand on est sous influence comme ça. C'est ce mal, c'est vouloir réparer le mal, vouloir cicatriser, vouloir guérir. Mais la chose que vous n'avez pas compris, en fait, Sandrine, pendant des mois, c'est que ce n'était pas de vous qu'il fallait guérir, mais c'était de lui. Et lui ne changera pas. Et je pense, moi, que vous avez été une excellente partenaire pour lui, parce que vous avez cédé à beaucoup de choses.
Eh bien oui, c'est marrant ce que vous dites, Olivier, parce que j'ai eu certaines de mes amies qui m'ont dit ça, effectivement.
Ben oui.
Eh bien oui, une excellente partenaire, justement, pour assouvir, justement, ses désirs.
Ben bien sûr, et je peux vous dire que c'est pas évident de trouver une partenaire qui accepte toutes ces choses-là, quoi.
Et puis je vous dirais qu'il a eu des partenaires qui l'ont quitté, il en a souffert, parce que bien souvent, dans tous ses partenaires, il les a quittés, mais quand c'est lui qui est quitté, eh ben, il ne sait plus quoi faire.
Oui, oui. Mais bon, moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas très courageux, déjà. Je pense que c'est quelqu'un qui manipule et qui a ressenti ce que je ressens avec vous en échangeant avec vous ce soir, c'est que vous êtes une personne qui est gentille, vous êtes sensible, vous êtes entière, donc vous êtes livrée dans cette relation. Vous avez essayé de lui convenir, vous avez essayé de lui convenir surtout. Et malgré ça, visiblement, les reproches étaient présents. Vous n'étiez jamais finalement comme il fallait, en fait.
Eh ben oui, parce que si je refaisais une douche, si je râlais, enfin si je voulais prendre une douche toute seule, ça ne faisait pas, parce que son truc à lui, c'était de me voir avec plein de savon sur le corps, puis après il fallait le caresser. Enfin, imaginez un peu, quoi. Je pouvais pas. Des fois, j'avais l'impression des fois d'étouffer, quoi.
Mm-hmm. Non, mais j'imagine parfaitement. Il vous a contraint, par exemple, à des relations pendant que d'autres vous regardaient dans ces clubs?
Parce que moi, je refusais, mais je lui aurais dit, bah oui, moi, ça m'intéresse d'aller plus loin, ça lui aurait posé aucun problème.
Mais oui. Non, mais je pense vraiment que cet homme avait un vrai souci d'ordre sexuel, quoi. Voilà.
Je pense, ouais.
Il avait une libido malheureusement, très développé, et donc ce qui ne correspondait pas à vous, à vos désirs, à vous. Et c'est tout simplement résumable avec ces mots. Vous n'avez pas perdu de temps, hein, Sandrine, ça fait partie des expériences que vous aurez eues dans la vie. Il faut toujours essayer de positiver par rapport à quelque chose qu'on a vécu. Il ne faut pas avoir de regrets, vous voyez. Ce matin, vous avez pris cette décision. La seule chose où je vous mets vraiment en garde, vraiment, hein, c'est de ne pas craquer, parce qu'il va essayer de revenir vous faire changer d'avis là dans les jours qui viennent. C'est certain, parce qu'il avait il avait son joujou pour lui. Il faisait un petit peu ce qu'il voulait avec son joujou, et on a du mal à se séparer de son joujou quand on est un peu auto-centré comme ça.
Ouais, c'est vrai. Oui.
Bah oui. Donc vous avez des amis, vous avez cette chance de ne pas être toute seule. Vous avez cette chance d'avoir un boulot qui vous voilà, qui où vous gagnez votre vie, où vous croisez des gens. Hein, donc ayez confiance en vous. Vous allez retrouver quelqu'un. Vous allez c'est peut-être pas tout de suite, parce que ça n'est pas évident de refaire sa vie, vraiment de trouver le bon. Mais c'est loin d'être impossible, croyez-moi, loin d'être impossible. Et je pense vraiment qu'il faut que vous ayez toute confiance en vous et en vos qualités, surtout. Hein? Vous allez quoi? Vous allez vous remettre sur un site ou pas?
J'aimerais bien rencontrer, mais de façon naturelle. Mm-hmm. Je vais essayer de faire un réseau d'amis. C'est-à-dire que je fais beaucoup de running, alors je participe beaucoup à des trails, des courses à pied. Je fais partie d'une association également qu'on a montée il y a 2 ans avec un groupe d'amis.
Ben voilà, donc il y a sûrement des célibataires dans tous les gens que vous croisez.
Hein? Oui, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui aime la course à pied, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Il y a beaucoup de... J'en vois partout à Paris déjà qui courent partout, donc il y a des gens qui courent. Donc vous avez
Il y a eu le marathon de Paris il n'y a pas longtemps aussi.
Bon. Pourquoi vous faites le marathon aussi ? Vous faites le marathon ?
Alors moi, je vais faire mon troisième semi-marathon. Mmh. Je vais le faire à Caen, parce que ça va être le 80e anniversaire du débarquement. Oui. Donc ça va être dément, hein. Parce qu'en fait, ce dimanche-là, vous avez le marathon, le semi et puis le 10 km en même temps. Mmh. Donc ça va être festif.
Bon, super. Et puis là, il y a du monde quand même. Donc,
Oui,
il y a du monde. Donc vous allez rencontrer du monde. Il y a obligatoirement des gens qui partagent votre passion.
Ouais, c'est quand même sympa de courir tous ensemble.
Et après, vous êtes timide ou pas ?
Non, mais méfiante, d'après ce que j'ai vécu.
Mais là, vous êtes tombée sur un morceau quand même, hein. Vous êtes tombée sur un os, comme on dit, quoi.
Il faut tout refaire, hein, mais ça va. Je vais y arriver. Hein,
mais oui,
soucis,
mais
hein.
Oui, vous allez y arriver. En plus, vous avez la chance d'avoir une passion, en plus, donc c'est génial.
Oui, c'est vrai.
Je vous dis, ayez confiance en vous. Ce qui vous manque, et ce qui vous a manqué dans cette relation, je le sens, c'est d'avoir confiance en vous. Cet homme, il a réussi à semer le doute dans votre esprit. Il a réussi à vous faire croire que voilà que c'était pas si facile et que lui il avait qu'à claquer des doigts pour retrouver quelqu'un. Bien le petit prince là qui claque dans les doigts et qui retrouve 10 filles comme il vous disait. Dans les jours qui viennent, pourquoi il va vous courir après ? Pourquoi il vous a inondé de textos aujourd'hui ?
Alors pourquoi il m'a inondé de textos ? Parce que je pense que il se sent tout seul, en fait, impuissant.
Ben oui. Et généralement, on ne quitte pas ces gens-là. C'est eux qui quittent. Vous comprenez ?
C'est ça.
Ben oui. Ce sont des gens qui sont dans la manipulation, qui sont dans le fait de mettre sous influence. Donc, ce sont des gens qui ne supportent pas d'être quittés. Ce sont des gens qui ont une haute estime d'eux-mêmes. Et surtout, lorsqu'ils ont fait tout le chemin qu'il a fait avec vous, hein, vous façonner un peu à ce qu'il voulait lui, c'est-à-dire vous emmener dans ses clubs échangistes, vous faire pratiquer du sexe dont vous n'aviez pas l'habitude obligatoirement, et puis visiblement de manière répétitive, parce qu'il était quand même bien chaud, notre ami, ça a pu vous ébranler. Mais ça n'est pas vous qui avez un problème, hein, Sandrine. Vous n'avez pas de problème. C'est ce garçon qui en a un. Mais comme je vous le dis, il a tout du manipulateur. Et les manipulateurs, et manipulatrices aussi, hein, parce qu'il a des femmes qui sont comme ça aussi,
oui.
Ne supportent pas d'être quittés. Ils ne le supportent pas. Donc vous risquez de devenir son obsession pendant quelques jours, croyez-moi. Donc, il faut que vous me promettiez de ne pas craquer, hein, surtout. Vous savez, en souvenir de ce que vous avez passé comme temps avec lui. Si vous dites, mais tu me dois bien quand même de m'accorder un petit moment, ne craquez pas.
Ouais.
Parce qu'il va vous baratiner.
C'est ça.
Et ça sera reculer pour mieux sauter, hein, comme on dit.
Oui, et puis là, j'ai pas envie de faire marche arrière. J'ai fait, je pense, un grand pas, même si j'étais tordue de douleur tantôt. Je me suis baladée, j'ai pleuré. Enfin, ça remue énormément de choses en
mais
soi.
Mais bien évidemment, ça.
Et on se dit, est-ce que je fais bien ? Comment ça va se passer ? Et s'il avait raison ? Enfin, oui,
Sandrine, on
passe dans une machine à laver à 80 degrés.
Complètement,
quoi,
je comprends. Mais Sandrine, si vous êtes franche avec vous-même et que vous vous mettez en face d'une glace et que vous vous posez la question, est-ce que cette relation te convenait ? Est-ce que cette relation te rendait heureuse ? Est-ce que cette relation t'épanouissait ? Est-ce que tu partageais vraiment des choses avec lui autres que le sexe ? Vous verrez que les réponses, vous les avez toutes, Sandrine. Vous me les avez dites ce soir. Donc vous les avez, ces réponses.
Oui.
Le problème, c'est que dans une relation amoureuse, on est toujours dans le fantasme de pouvoir améliorer les choses, que ça change. Dans une relation amoureuse, on a de cesse d'espérer que l'autre devienne un peu à l'image de ce que l'on désire. C'est pour ça qu'une relation amoureuse, c'est difficile aussi.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc, mais cette relation-là ne vous convenait pas. À tout un tas de points de vue, elle ne vous elle ne vous épanouissait pas. Donc, vous avez les réponses. La seule chose, je vous dis, c'est que il va essayer, coûte que coûte, de pouvoir vous croiser, de pouvoir vous hameçonner, voyez ? Au même titre qu'on parle des hameçonneurs sur Internet qui essaient d'arnaquer les gens, lui, il va essayer de vous arnaquer, à nouveau, mais sentimentalement parlant.
Oui. Mais c'est encore plus sournois, en fait, parce que c'est ça, ça vous met ça dans la tête. Et après, vous vous dites, quand le plus de confiance que l'on a, on est tellement ébranlé que...
Mais vous étiez amoureuse un peu de cet homme.
Ah oui, j'étais amoureuse, mais oui. Bien sûr. Oui,
bah oui, je l'entends. Tout à fait. Mais je pense que vous étiez amoureuse d'un espoir, vous voyez. Vous étiez amoureuse d'un possible, comme on dit en philosophie. Mais tout ça n'existait pas vraiment. Vous voyez, quand cet homme... vous demande, comme vous l'avez expliqué à Florian, à un repas la veille de Noël, de vous habiller en short collant et en talons. C'est très bien pour une soirée en couple, avez-vous dit à Florian. Mmh. Mais il vous a imposé de porter ça en famille.
Oui, oui.
Ça a été très mal perçu par votre famille même.
Oui, et puis bah, après, il y a eu des conflits, quoi. Je me suis sentie un petit peu à l'écart de tout, quoi.
Bah, oui, mais vous voyez, si vous aimez quelqu'un, si vous respectez quelqu'un, vous ne lui imposez pas ça.
Ouais.
Vous sentez que ça le met mal à l'aise. Vous sentez que ça n'est pas adapté à la situation d'un repas de Noël en famille.
Non. Vous voyez, c'est plutôt adapté à un repas entre amis, quoi.
Mais voilà, mais à deux, dans l'intimité, on a le droit de faire... ce qu'on veut. Vous savez, je dis toujours que ce qu'on a dans la culotte et ce qu'on en fait ne regarde personne d'autre que nous. Hein ? Donc, je veux dire, cet homme, il pourrait passer 23 heures sur 24 à vouloir avoir des rapports sexuels, que moi, je m'en fous. Quand je dis qu'il a un problème, oui, je pense qu'il a un problème. Il a... Alors, ça vient d'où, ce truc de vouloir tout le temps... faire du sexe avec des femmes et tout, bon, bah, une libido une libido pas déplacée, mais une libido volumineuse.
Oui.
Mais l'imposer à l'autre, c'est déjà marcher et entamer la liberté de l'autre. Vous voyez, la liberté, elle commence là votre liberté, en fait, elle commence là où l'autre commence à la respecter, votre liberté. Or, il n'a cessé de vous imposer des choses. Et puis, ça n'est pas faute d'avoir pu constater que ça ne vous plaisait pas, que ça vous mettait mal à l'aise. Non, il a recommencé. Où il est le respect dans tout ça, de Sandrine ?
Il n'y a pas vraiment de respect, en fait.
Ben non. Mmh. Donc, vous savez, aujourd'hui, ce soir, en m'appelant... vous avez le choix entre deux choses. Un, gagner du temps et bien écouter ce que je vous ai dit et ne céder à aucune de ces demandes. Et donc gagner du temps sur tout. Gagner du temps sur votre bien-être, gagner du temps sur la vie, gagner du temps sur l'amour, sur la possibilité de à nouveau rencontrer quelqu'un, d'être libre. Parce que en disant non à cet homme et en le quittant, Vous ouvrez le champ des possibles et votre cœur est ouvert à nouveau pour rencontrer quelqu'un d'autre. Si vous lui accordez quoi que ce soit comme entrevue et un espace d'écoute, je vous jure qu'il va vous hameçonner.
J'en suis convaincue.
Bon,
oui.
Donc vous savez ce que vous avez à faire.
Tout à fait.
Et puis si vraiment il vous harcèle, vous lui renvoyez un texto en lui disant je crois que je me suis mal fait comprendre, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Voilà. Point. Je crois que tu n'as pas bien compris, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, c'est fini. Voilà. Et encore une fois, hein, il est capable de vous promettre monts et merveilles. Hein. On est au Mont-Saint-Michel, donc pourquoi pas. Mais il ne changera pas. Il ne changera pas. Cet homme a... Alain nous dit qu'il est addict au sexe. Alors Alain nous écrit un texte, il dit, lui est addict au sexe et Sandrine fait des semi-marathons, ça ne pouvait absolument pas aller ensemble. Pourquoi pas Alain? Et puis...
Disons que c'est pas la même addiction.
Yvette,
quoi.
Yvette nous dit, c'est un gigolo sans vrai métier, pas d'avenir. Sandrine, restez vous-même, sortez danser, rencontrez des gens normaux, vous dit Yvette.
Ah ben, merci à tout le monde, voilà. Parce que je pensais pas que j'aurais avoir des témoignages, parce que je pensais que mon témoignage était assez bas de gamme. Quoi. Enfin,
mais voilà, pourquoi vous voyez, la sous-estime que vous avez de vous. Il est très bien, votre témoignage, il est très intéressant. Il montre combien, encore une fois, quand on est gentil, quand on est avenant, quand on est bien élevé, quand on est sensible, combien on peut tomber sur un esprit tordu qui peut nous faire douter de tout un tas de valeurs que l'on a. Et qu'on devienne, on arrive à en devenir celui qui doute, ou celle qui doute, et qui se prend pour finalement un peu l'intrus, un peu celle qui n'est pas normale, celle qui n'est pas bien, finalement. Mais, et non, moi, je vais vous dire, moi, si je tombais sur une fille qui voulait me traîner dans des clubs échangistes et qui avait envie tous les 5 minutes de me grimper dessus, je peux vous dire que ça n'irait pas. Je vous le dis, donc il ne faut pas que vous pensiez que vous n'êtes pas normal. C'est lui qui ne l'est pas, vous voyez. Mais il a réussi à vous faire douter. Je l'entends, il a réussi à vous imposer une autre image de vous, en fait. Donc, voilà, ne cédez pas, d'accord?
C'est et promis, en tout cas, merci.
Et n'hésitez pas à me rappeler ou à rappeler Florian pour tenir le coup, on est là, d'accord?
Oui, d'accord.
Et puis, dernier conseil, réécoutez ce podcast demain.
Oui, tout à fait.
Il sera très vite disponible sur l'application Europe 1 ou sur la plateforme. Et réécoutez-vous, comme ça vous allez réentendre ce que je vous ai dit, mais aussi vous allez vous réécouter. Et quand je vous dis que vous avez les réponses à toutes vos questions, vous comprendrez pourquoi. D'accord ?
D'accord. En tout cas, merci. Merci de m'avoir reçu.
Je vous en prie, je vous embrasse et puis passez une bonne nuit et courage à vous.
Merci. Au revoir. Continuez, vous êtes formidable.
Merci.
Au revoir Olivier. Au revoir. Merci.
Vous pourrez découvrir d'autres témoignages sur le site et l'application europe1.fr et si vous souhaitez intervenir dans la libre antenne, eh bien on vous donne le numéro de téléphone du standard que vous connaissez par cœur maintenant, 01 80 20 39 21 si vous souhaitez passer dans la libre antenne avec Valérie Darmon ce soir, 01 80 20 39 21, la libre antenne qui commence à 22h, je le rappelle. Avant de retrouver Sophie et les copains, le grand jeu de culture générale d'Europe 1, on va redonner sur le premier succès d'une jeune artiste originaire de Saint-Nazaire. Son premier album a été récompensé de 4 victoires de la musique cette année, c'est Zao de Sagazan avec la Symphonie des Éclairs. Alors Zao de Sagazan, elle prend pas souvent l'avion, mais le point de départ de cette chanson, c'est qu'un jour, donc, elle s'est retrouvée dans un avion, elle était à côté d'un hublot et elle a fait le constat qu'il faisait toujours beau au-dessus des nuages.
Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement, personne n'aimerait se retrouver, au cœur d'une tempête avouée, il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages, et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. au-dessus des nuages. Mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie, là. Symphonie des éclairs.
Elle aime la pluie, elle aime les orages aussi. Zao de Sagazan, c'était la symphonie des éclairs. Les dépressions et les anticyclones, elle connaît bien Sophie Davant, puisqu'elle a présenté la météo de nombreuses années à la télévision. Et bien on va la retrouver tout de suite à la tête du grand jeu d'Europe 1. Sophie et les copains, elle est entourée de toute sa bande évidemment. Nouvelle diffusion pour vous qui n'étiez peut-être pas à l'écoute.
Europe 1, Sophie et les copains.
Sophie Davant.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on vous déroule le tapis rouge pour une émission spéciale autour du cinéma. Toutes les questions d'aujourd'hui porteront sur des films cultes, des anecdotes de tournage, l'histoire des plus grands studios, des acteurs mythiques. Donc, si vous êtes un amateur du 7e art, venez donc nous rejoindre pour jouer avec nous. Il y a en plus 1 400 € en jeu actuellement. Pour cette émission spéciale cinéma, j'ai la chance d'être entourée d'un parterre de stars, un sex-symbole de la radio, une starlette du petit écran. Sous ses airs de ne pas y toucher, elle refuse de se contenter de second rôle. En attendant le rôle de sa vie au cinéma, elle est avec nous. C'est Danielle Moreau.
Bonjour.
Une antiquaire et une femme d'affaires qui aime être dans la lumière. Elle est toujours apprêtée, bijoutée, même si c'est juste pour aller acheter le pain. Et encore... va-t-elle elle-même acheter le pain? C'est Caroline Margeridon. Bonjour.
Bonjour Sophie, salut les copains.
Et un humoriste qui sait nous faire passer des rires aux larmes. Il est charismatique, caustique, il a une logique qui défie l'entendement, surtout le nôtre. C'est Jean-Luc Lemoine. Bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Et puis à 17h, la bande s'agrandira avec l'arrivée d'un invité parfait pour cette spéciale cinéma, le réalisateur Jean-Marie Poiré. Ouais. L'homme aux 40 millions d'entrées. Et là, vous entendez la musique.
Des visiteurs.
Des visiteurs, là, des films de Jean-Marie Poiré. On a hâte de le recevoir. Il a écrit un livre formidable. Ah ouais. Rire est une fête aux éditions Michel Lafon, qui fourmille d'anecdotes. Et il ne pratique pas la langue de bois, c'est le moins qu'on puisse dire. Daniel, une info du jour.
Eh bien oui, Parisiens, réveillez-vous. Non, ce n'est pas un message d'Anne Hidalgo avant les JO, mais c'est le slogan de la nouvelle version du spectacle La Révolution Française. Ça commence demain soir au théâtre 13e art. Et alors en fait, ça a été créé il y a 50 ans, c'est le tout premier, voilà, on entend le Chouan en avant, un des titres phares de ce premier opéra rock, parce qu'en fait c'était 6 ans avant Starmania, donc on parle toujours de Starmania, ouais, qui a relancé la comédie musicale en France, mais il y a eu donc la Révolution française, et c'est ce spectacle qui a révélé Daniel Balavoine qui jouait un député du clergé, Alain Bachoum qui était Robespierre, et Gérard Blanc, vous vous souvenez, Martin Circus, qui incarnait Danton, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et ouais, dans les années 70, les profs faisaient écouter l'album pendant leur cours d'histoire au collège. Donc,
je crois qu'il y avait tous les Martin Circus qui
Oui, dedans, exactement. Il y avait aussi les Charlots. Enfin, j'ai cité quelques.
C'était intelligent,
une pépinière de talent. Hein. Exactement. Ah. Et c'est quand même écrit par les créateurs des Misérables, excusez du peu. Ouais. Donc, pour cette version 2024, le metteur en scène Ned Grudzik, j'espère que je prononce bien, il a voulu que le public soit acteur et témoin au cœur du tumulte de la Révolution française. Les Parisiens, réveillez-vous et allez au 13e art.
Partenaire de ce spectacle. Jean-Luc.
Est-ce que vous êtes du genre à acheter des produits reconditionnés, notamment dans l'électronique, c'est important?
Bien sûr.
Vous achetez parce qu'il y a
un
des
sites. Un téléphone, par exemple.
Exactement.
Ou un Moulinex.
Et voilà. Il ne faut pas jeter, il faut racheter. Oui. Ben, j'ai quelque chose pour vous qui va vous intéresser. C'est une petite entreprise normande qui propose de revendre des sextoys.
Ah non, ça c'est dégueu.
Des sextoys de seconde main, ça ressemble à une blague, ça, non?
Non, c'est des sextoys de seconde main.
Ça vaut cher un sextoy. Hein.
Alors combien ça coûte?
Alors moi j'ai une copine qui en a acheté
un.
Celui dont on a parlé, qui s'appelle, moi je croyais que c'était un designer qui faisait, ça s'appelle le
Black.
Voilà.
Vous êtes très au courant.
Je crois qu'il vaut dans les 400-500 € quand même.
Oui, ben, c'est ça. En tout cas, là, la moyenne c'est 180 €, quelque chose comme ça, quand il y a un peu d'électronique. Et là, vous pouvez acheter des sextoys. L'idée c'est 30 à 50% moins cher. L'entreprise s'appelle Rejouer.
C'est
joli.
Ça va devenir de l'antiquité finalement, dès que c'est du seconde main.
Bah exactement, c'est pour vous.
Rejouis, voilà.
Exactement.
Daniel, on pourrait peut-être offrir à Daniel un petit objet comme ça.
Oui, un vieux sextoy.
Qui a bien servi.
C'est ça.
Je voudrais poser une question à Jean-Luc.
Oui.
Les sextoys, c'est toujours que pour les filles, il n'y en a pas pour les garçons?
Si, si, je crois que ça existe pour les garçons. Il y a... mais je sais pas, il est tôt.
Il y a des poupées gonflables, des trucs comme ça.
Mais je crois qu'il y a des trucs qui s'appellent les vaginettes.
Ah, ah, c'est mignon comme
voilà,
mot.
Exactement. C'est
Valérie, pardonnez-nous. Bonjour Valérie.
Bienvenue. Bonjour Sophie. Bonjour les copains.
Bonjour. C'est une spéciale sexe.
Je rougis, j'ai un peu honte. Valérie qui nous appelle d'où?
Je vous appelle d'un village à côté d'Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais.
Ah, très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Valérie?
Je travaille dans un laboratoire. J'analyse des denrées alimentaires.
D'accord. Ça, c'est bien. Mariée, des enfants qui ont quel âge?
Alors, j'ai deux garçons. Le premier, il a 12 ans et le deuxième, il a 8 ans.
Mm-hmm. Vous aimez beaucoup le cinéma, parce que je vois que vous y êtes allé pas plus tard qu'hier. Vous avez vu quoi hier?
J'ai vu le film The Fall Guy avec Ryan Gosling.
Et alors?
Eh ben, c'était pas mal. On a vu beaucoup de cascades et c'était vraiment intéressant de voir l'envers du décor. Donc, c'était vraiment bien.
C'est bien tiré de la série L'homme qui tombe à pic?
Ouais.
Alors, vous êtes peut-être un peu jeune pour ça, mais dans les années 70, il y avait une série avec les Majors.
Ouais, qui était géniale. Moi, j'adorais cette série.
Vous vous êtes inscrite spécialement pour la spéciale cinéma, Valérie?
Non, alors à la base, je ne savais pas que c'était le cinéma, mais vu que c'est un thème que j'aime bien, c'était parfait. Ça tombait tout poil.
Comment nous avez-vous rencontrés, si j'ose dire?
Eh ben, j'écoutais déjà Europe 1 l'année dernière pour une autre émission, et puis je suis tombée sur vous à la rentrée, et puis je suis restée avec vous. Et puis vous me suivez tous les soirs quand je rentre du travail, donc c'est parfait, vous me faites décompresser ma journée.
Ah, c'est sympa.
Bien, on s'en réjouit, sans allusion à la marque précédente.
Ça vous travaille quand même. Hein.
Voici, Valérie, la première question, et c'est une question Tom Cruise. C'est une mission impossible de donner tous les films où Tom Cruise a crevé l'écran. La momie, Top Gun, Eyes Wide Shut, La guerre des mondes, Rain Man et j'en passe. Voici une question sur Tom qui a fait de la moto dans Paris il y a quelques jours pour le tournage de Mission Impossible 8. Quelle info parmi celles que je vais vous donner est fausse concernant Tom Cruise ? Il a quitté ses trois femmes alors qu'elles n'avaient que 33 ans. Le 10 octobre au Japon, c'est le jour Tom Cruise. Sa mère s'est fait passer pour sa sœur jusqu'à l'âge de 22 ans. L'une de ces trois propositions est fausse.
C'est ça. Ah, est fausse. Il y en a deux vraies.
Il y a deux vraies. D'accord. Déjà, je trouve que les trois font fausse.
Ouais. Ouais, peut-être qu'elle nous dit n'importe quoi. Peut-être qu'elle a complètement lâché les élastiques, Sophie. On ne sait pas.
Alors, la maman.
Sans allusion à.
J'aurais pas dû commencer avec cette question. Je le savais.
Ça, Jean-Luc, tu vas y avoir droit pendant toute l'émission. C'était quoi les propositions, Sophie, sans vous embêter?
Il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. Il a quitté ses trois femmes alors qu'elles n'avaient que 33 ans, le 10 octobre au Japon, c'est le jour Tom Cruise. Sa mère s'est fait passer pour sa sœur jusqu'à l'âge de 22 ans.
Bah là, on est en train de se regarder. Alors, c'est très drôle. T'as dit quoi, toi?
Valérie,
qu'est-ce que vous décidez?
Il va y avoir un débat.
Alors, nous, on est trois, on n'est pas d'accord tous les trois, non. Valérie. Alors,
on
et
se fait
vous
des signes, oui, pour l'instant.
Vous dites quoi?
J'aurais tendance à parler des femmes avec qui il est sorti. Toutes les trois à 33 ans, c'est ça?
Ouais, vous pensez que c'est faux?
Il faudrait vraiment qu'elles aient toutes les trois 33 ans à chaque fois. Je sais pas, ça me paraît.
Il a un problème avec le Christ, sinon. Hein.
Quoique,
il fait de la scientologie, attention, il a peut-être un problème avec ça. Hein. On ne sait pas.
Est-ce que les copains, vous avez une idée ou...
Moi, je procédais par élimination. 33 ans, la première, c'était Mimi, je ne sais plus comment.
Mimi Rogers,
il y a eu Nicole Kidman et il y a eu Cathy Holmes.
Ouais. Ouais.
C'est possible, je pense pas. Elles étaient plus vieilles, vous
Nicole pensez? Kidman, je pensais qu'elle était un poil plus vieille, mais je ne suis pas sûr. La dernière sur.
Donc c'est ça, la fausse
maman. La fausse maman, Moi, j'avais l'impression que ça, c'était l'avis de Jack Nicholson. Mais donc, j'aurais été par élimination sur le jour au Japon consacré à Tom Cruise.
Ah, donc, toi, tu dis que c'est la fausse réponse.
Non, parce que non, vous dites que la troisième serait fausse, puisque ça concernerait Jack Nicholson.
Mais oui, t'as pas compris la question.
Mais c'est quoi la question?
La question, c'est que parmi les trois compositions, il y en a une fausse.
Oh là là, on se fait engueuler, dans le casque.
En fait, il faut donner la mauveuse, la fausse question.
Ah, donc, bon, si
alors,
tu
c'est Jack Nicholson, alors.
Ouais. Donc, toi, tu dis que c'est la 3.
Pour moi, c'est la 3.
Ouais. Voilà. On le suit parce que nous, moi, je pensais au Japon comme ça, parce que ça me semble très étonnant, mais j'ai aucune certitude.
Toi, tu penses la 2, et moi, c'est horrible. Ouais. Valérie, je pensais la 1. Vous êtes dans le caca total.
Non, Jean-Luc a apparemment une vraie connaissance.
Le plus intelligent pour moi, entre nous, excuse-moi, Daniel, je te respecte et je t'aime,
je pense. Je ne me vexe pas.
Il a un beaucoup plus grand front que nous, Jean-Luc.
Oui, parce que je suis un extraterrestre.
Surtout une question de culture.
Il a une culture, j'ai plus importante.
Bon, alors, Valérie.
Je suis perdue avec tout ce que vous avez dit. Rejoignez-moi les trois, s'il vous plaît, Sophie.
Il a quitté ses trois femmes alors qu'elles n'avaient que 33 ans. Le 10 octobre au Japon, c'est le jour Tom Cruise, où sa mère s'est fait passer pour sa sœur jusqu'à l'âge de 22 ans. Je ne vais peut-être pas vous les répéter 10 fois, quand même.
Non, excusez-moi. Et les copains, vous avez dit chacun quoi?
Alors, apparemment, elle se rallie à l'avis de Jean-Luc qui opterait pour la troisième proposition. Sa mère s'est fait passer pour sa sœur jusqu'à l'âge de 22 ans.
Parce que, comme je le disais, pour moi, ça, c'est une anecdote qui... Enfin, c'est pas une anecdote, c'est une histoire qui...
À Jack Nicholson.
Qui est liée à Jack Nicholson.
Donc, les auteurs se sont peut-être inspirés.
Donc, il vaut mieux le croire, Valérie, parce que nous, on patauge.
Écoutez, je vais suivre les copains et je vais suivre l'avis de Jean-Luc. Je vais me ranger derrière lui parce que je ne sais pas du tout. Donc,
D'accord, vous avez raison. Effectivement, c'est arrivé à Jack Nicholson.
Bravo.
Effectivement, Mimi Rogers, Nicole Kidman et Katie Holmes ont le point commun d'avoir été mariées à Tom Cruise et d'avoir divorcé avec lui alors qu'elle n'avait que 33
c'est
ans.
C'est dingue.
Le Japon a mis en place un Tom Cruise Day parce qu'il est venu au Japon plus que n'importe quel autre acteur.
Son fils est japonais.
D'Hollywood, de faire la promo de ses films. Ils ont choisi le 10 octobre, car c'est ce jour-là qu'il a commencé le tournage du film Le Dernier Samouraï.
Ah, en tout cas, bravo Jean-Luc.
On va retrouver d'ailleurs celle qui incarne le cinéma sur Europe 1, Laurie Cholewa. Bonjour Laurie.
Bonjour Sophie, bonjour tout le monde.
Bonjour Laurie.
Alors, vous présentez l'émission qui raconte le cinéma aux auditeurs d'Europe 1 chaque samedi de 19h à 20h. Et samedi, recevrez...
Max Boublil et Emmanuel Berco.
Très bien. Cette anecdote concernant Tom Cruise, il a tourné il y a quelques semaines à Paris, le Mission Impossible 8. Vous avez des détails croustillants à nous partager, Laurie?
Alors, je sais que les passants étaient très surpris et très heureux comme d'habitude, parce que c'est pas la première fois que Tom Cruise y tourne à Paris. Il était déjà venu en 2017. Il était déjà à moto. Il roulait à contresens dans les rues de Paris. L'Arc de Triomphe avait été fermé pour l'occasion. C'est toujours très spectaculaire quand Tom Cruise vient à Paris faire ses cascades de Mission Impossible. Donc voilà, je sais qu'il est resté quelques jours. Avant, il était à Londres. J'en sais pas plus, malheureusement. Mais je ne l'ai pas croisé non plus. Donc je ne peux pas vous dire où est-ce qu'il se cache et s'il est encore là. Mais en tout cas, il était bien là plusieurs jours.
Est-ce que vous l'avez déjà interviewé ?
Oui, j'ai déjà interviewé plusieurs fois, plutôt sur des tapis rouges, parce que c'est quand même assez rare d'avoir des entretiens avec Tom Cruise. Hein. Tout est très cadré autour de lui. Ce qui est juste frappant, c'est que je crois que c'est l'un des acteurs les plus généreux. C'est-à-dire que je l'ai interviewé pour la première fois, je crois que c'était aussi pour un Mission Impossible. Il est resté, il a passé des heures sur le tapis rouge de l'avant-première qui était en extérieur, à signer des autographes. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'est pas repartie avec sa photo. Il a vraiment cette réputation de porter une attention particulière au public, de signer les autographes, de faire des photos, de prendre le temps pour son public. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait moins d'interviews un peu longues, parce qu'il préfère prendre le temps pour le public. Voilà.
Il est pro et américain, donc
il
en
est
général,
très pro. Les
Américains jouent bien.
Ça marche ensemble.
Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez quelques anecdotes sur le prochain festival de Cannes là qui se prépare?
Eh ben oui, en plus on a des infos tous les jours, il y a une nouvelle news autour du Festival de Cannes, c'est très courant qu'il fasse monter un petit peu la sauce comme ça, mais là on a appris le jury dernièrement, on savait qu'il allait être présidé par Greta Gerwig.